quelques notes d'une berceuse inuite pour accueillir notre thématique du jour. Il n'est pas le plus grand ni le plus voyant des musées du Valais, mais il mérite cependant le détour. Le musée Art et Collections de la Fondation Bernard et Caroline de Watteville présente depuis juillet dernier une superbe exposition sur l'art des Inuits à Crans-Montana, grâce à Bernard de Watteville, notre invité, avec vous Christian Tchoka.
Oui, bonjour Bernard de Watteville, je ne vais pas me tromper une deuxième fois sur votre prénom, bien sûr. Oui, alors j'ai eu l'occasion de visiter ce petit musée, on peut le dire, très significatif dans sa scénographie. On va y revenir. Il y a très peu de temps, en montant à Crans-Montana, j'allais y voir du cirque. Et puis, par bonheur, j'ai découvert votre collection. Ce musée a une particularité, il est ouvert une fois par semaine, on va en donner la raison. Mais surtout, je revenais aux impressions très fortes que m'avait fait une visite à Québec il y a 10 ans, où j'avais vu la très belle galerie Bosseau, je crois. Et là, j'ai eu une réminiscence avec vos propres pièces. Pourtant, Bernard de Watteville, cet art inuit tel que vous le montrez à Crans-Montana, il est assez récent, somme toute.
Oui, l'art inuit tel qu'on le voit maintenant, c'est un art qu'on appelle art contemporain et qui, au fond, a été découvert en tant qu'art par un monsieur Houston qui est allé faire des photos et qui a vu ses artisans, ses sculpteurs, et a découvert que c'était tout à fait magnifique. Et il a commencé à lancer cet art et à le commercialiser, surtout pour remplacer le commerce des fourrures d'autrefois.
Alors ça, c'est une date donc qui nous situe à l'époque contemporaine. Et pourtant, dans l'exposition, vous parlez-vous de 4000 ans de culture inuite?
Oui, alors l'immigration des Inuits vient de très loin. C'était il y a 4000 ans où ils ont passé le détroit de Bering pour se sédentariser une partie en Alaska, plus loin au Canada et enfin au Groenland. C'était les cultures de Pré-Dorset, Dorset et Thule pour la fin.
Donc c'est des cultures amérindiennes ou devenues amérindiennes aussi, tout au Grand Nord. Est-ce finalement les tout premiers, puisqu'ils ont, on peut l'imaginer Bernard de Watteville, ils ont été les tout premiers à passer ce fameux détroit de Bering en pleine glaciation et à occuper ce Grand Nord et y rester, ce qui est encore plus exceptionnel?
Tout à fait. À vrai dire, ils sont très typés. Ils sont mongoloïdes. Mmh. Et ils viennent de Mongolie ou peut-être même de plus loin. Et vous avez les branches qui sont restées en Alaska avec les Amérindiens, sur la côte ouest, et sont descendues. Vous retrouvez ce type des mongoloïdes très bas en Amérique du Sud. Et alors l'autre partie qui est restée dans la couronne du pôle Nord, se sont sédentarisés de plus en plus.
Comment peut-on expliquer l'adaptation, la survie dans un climat si hostile?
Ah, ça, c'est une extrêmement bonne question. C'est épouvantablement dur. Ou ça l'était du moins du temps, nous parlons de peut-être 1000 ans en arrière. Très dur, car pas d'électricité, pas de chauffage, la chasse la plus primitive, ça c'était le phoque, le caribou,
le poisson.
Et donc très très dur. Et on comprend pas très bien pourquoi ils ne sont pas allés plus au sud. Et vous avez tout à fait raison, aujourd'hui tout a changé. Ils ont de l'électricité, ils ont le chauffage, ils ont l'avion qui les rejoint tous les jours, carrément. Donc ça a changé.
Oui, ça a changé, peut-être pas pour le meilleur, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce que cet art fait forte impression, et la pression exercée par ce milieu du Grand Nord très hostile est très visible dans ces sculptures. Ils ont, au fait, adopté la stéatite, le marbre, ils sculptent également dans les eaux, par exemple, de baleines. Est-ce que c'est aussi significatif de cet art nouveau que cette appropriation de nouvelles matières?
Ce ne sont pas des nouvelles matières. N'oublions pas qu'il n'y a pas de bois. Alors, ils sont bien obligés de se concentrer sur ce qu'ils trouvent sur place, et c'était les pierres, les différentes pierres. Marbre, très peu, mais il y en a aussi. Une veine de marbre a été trouvée pour faire notamment le bel ours que vous avez à l'entrée du musée et qui s'appelle Nanook.
Alors ça, c'était formidable, cet ours superbe. On dirait d'ailleurs du Pompon, François Pompon, hein, ou c'est Pompon qui a imité les Inuits,
on pourrait. Pompon est un peu plus allongé comme forme, mais enfin voilà, je ne sais pas. En tout cas, c'est pas les Inuits. Inuits qui se sont imprimés par
Pompon.
Oui, alors donc, os de baleine, l'ivoire, qui était une matière assez rare, est donc restée uniquement pour le décor. On ne fait plus tellement de ces amulettes et ces petits objets en ivoire, trop rares. Donc maintenant, on l'utilise pour faire des dents lors d'une sculpture en pierre ou en os, ou voilà.
Alors, on va revenir, si vous permettez, Bernard de Watteville, sur les différentes expressions. On y trouve les grands animaux. Vous avez situé l'ours polaire, bien sûr. Moi, j'ai un faible pour le bœuf musqué, bien qu'il puisse se montrer extrêmement agressif quand il défend son troupeau. Et puis, il y a la baleine, il y a ces grands animaux. Et puis, leur métamorphose, et puis j'hésite un peu, leur métempsychose en esprit. Tout ça exprimé dans la sculpture. Est-ce que c'est très divers ou est-ce qu'il y a une certaine cohérence dans cet art inuit, selon vous?
Alors, il y a une cohérence puisque tout cet art a été très souvent inspiré par les légendes et notamment aussi par le chamanisme. Et le chamanisme a influencé la transformation de l'animal dans un autre animal ou de l'être humain dans un animal et notamment surtout l'ours, qui est quand même pour eux l'emblème de l'animal le plus beau. Mmh. Je fais une petite remarque qui me semble assez intéressante, c'est qu'avec le christianisme qui est arrivé là-bas, donc avec les premiers missionnaires, les anciens sculpteurs, les vieux sculpteurs, n'ont pas fait d'expression chamaniste. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient déjà chrétiens et puis ça n'entrait pas dans leur vision. Et donc ce sont les jeunes sculpteurs qui ont repris les légendes parce qu'ils se disent « il faut refaire vivre » cette histoire.
Vous avez parlé de vision, c'est exactement ça. Et il y a des sculptures qui nous montrent des danses chamaniques ou des danses des esprits, esprits de l'ours, esprits qui viennent visiter ces communautés. Comment, selon vous, ça s'exprime dans la matière? Vous avez découvert des pièces que vous ne soupçonniez pas?
Alors, il y a les pièces uniques, c'est-à-dire qui symbolise une personne ou un animal. Et après, il y a aussi des villages, et il y a des combats de l'homme et de l'ours. Donc, si vous voulez, c'est un tout, effectivement.
On l'entend bien, Bernard de Watteville, vous êtes passionné par cette histoire-là, par cet art, et vous êtes vous-même en contact avec de nombreux artistes sur place. Vous en revenez, il y a peu, je crois, d'un voyage dans le Grand Nord sur la piste de ces artistes. Est-ce à dire que ce que vous exposez est essentiellement votre collection personnelle?
Oui, alors la collection est entièrement m'appartient et je l'ai composée avec l'aide de beaucoup de gens, notamment Monsieur Brousseau dont on vient de parler, et les collectivités, la Hudson Bay Company, etc. Donc j'ai fait un choix de très belles pièces. C'était le but. Et effectivement, elle m'appartient, ou elle appartient plutôt à ma fondation. Ce n'est pas vraiment moi.
Alors, cette collection personnelle, les plus belles pièces, quels étaient vos critères? Est-ce que c'est des suggestions qu'on vous a faites? Est-ce que ce sont des ethnologues qui vous ont dit « cette pièce est particulièrement intéressante » ou est-ce quand même votre veine esthétique qui a commandé un peu cette collection?
Écoutez, c'est comme pour toutes les collections qu'on fait, on aime ce qu'on collectionne. Mmh. On ne collectionne pas pour faire une collection. C'est, au fond, on ajoute une pièce à l'autre par amour, enfin par... voilà, ça se donne. C'est pas... désir, je fais une collection. Non, une collection doit être quelque chose de sentimental.
Cela dit, la diversité des pièces, des animaux représentés, des expressions, notamment par les matières dont nous avons parlé, démontre chez vous le souci d'un éventail très large dans cette collection d'art inuit.
Tout à fait, tout à fait. Et c'est surtout, ça s'exprime par le choix des matières. Si c'est en os de baleine avec des artistes comme Manassi, pour ne pas le citer.
On va y revenir à ces artistes.
Ou alors dans la stéatite ou surtout la serpentine, vous avez des pièces très très variées. Et c'est ça aussi qui fait la richesse d'une collection, c'est que ce soit varié.
La variété, ce sont les artistes qui redécouvrent leur culture ancestrale après la christianisation de ce Grand Nord. Et vous mettez en valeur dans l'exposition à Crans-Montana précisément certains de ces artistes, dont un ou deux qui sont particulièrement marquants aujourd'hui.
Oui, alors moi j'ai un grand faible pour l'artiste Manassi qui a fait des sculptures en os de baleine décorées avec de l'ivoire. Et c'est très beau, ce sont des pièces que j'ai pu obtenir alors qu'elles étaient prédestinées pour un autre musée. J'ai pu les les diriger vers moi.
Non, bienvenue en Valais, en Suisse.
Voilà. Et donc, alors, Banassi, House de Baleine, Arlouk, que je trouve un artiste tout à fait étonnant, pourrait être n'importe qui, ça n'a pas besoin d'être un Esquimau, enfin un Inuit. Et c'est de très belles, une très belle expression artistique, oui.
Est-ce que c'est facile d'entrer en contact avec ces artistes ou d'une façon générale avec les Inuits de ce Grand Nord? Est-ce un peuple qui aime partager maintenant ce qu'il crée de façon relativement récente, Bernard de Watteville? Ou est-ce que c'est vous qui devez faire beaucoup d'efforts pour aller les chercher, leur parler, constituer cette collection?
Il y a deux catégories d'artistes. Il y a ceux qui ont commencé dans le Grand Nord et qui ont quitté pour aller à Winnipeg ou d'autres villes plus dans le sud du Canada et qui vont dans des universités maintenant, qui apprennent à sculpter et ce n'est plus l'art ancestral. Et si vous allez dans ces petites communautés, il y en a une cinquantaine, des petites communautés de 500 000 personnes, les sculpteurs sont devant leur maison et sculptent et essayent de vous séduire. Donc, ils sont très ouverts. Mais la conversation est évidemment extrêmement difficile puisqu'il y a une question de langage. Ils parlent l'Inuktitut, ce qui n'est pas vraiment ma langue favorite. Et l'anglais, mais c'est broken English, on ne comprend pas non plus. Donc, la difficulté, elle est là. Mais vous rencontrez des gens qui sont très ouverts à parler de cet art. Et ce sont notamment même un hôtelier peut vous parler très bien s'il est là-bas sur place, parce que lui parlera la langue et il comprend très bien ce qui s'y passe.
C'est comme ça que vous êtes entré en contact et que vous vous êtes pris de passion pour cet art, Bernard de Watteville, en discutant comme ça avec des gens du lieu. Comment ça s'est fait?
J'ai commencé par faire une magnifique expédition. Je rejoins une expédition où nous sommes allés au pôle Nord. En petit bimoteur, et en revenant, nous nous sommes arrêtés dans de nombreuses petites communautés. Et là, évidemment, on est séduit par les voir, c'est quelque chose de nouveau, et ça m'a intrigué de voir autre chose, de l'inconnu.
Mais vous ne connaissiez pas du tout cet art, ou bien vous l'aviez un peu croisé, ne serait-ce que dans des musées d'ethnographie ou d'autres espaces de ce type?
Bon, vous rencontrez cet art exprimé par des jolies sculptures dans des magasins d'aéroport, mais je veux dire, c'est pas vraiment ce que je recherchais. Ça, c'est sympathique d'avoir un souvenir, mais ça se limite à ça.
Est-ce que c'est pas aussi extraordinaire d'imaginer que les Inuits qui ont sculpté ces très belles pièces, avant d'apprendre à sculpter comme ça se passe maintenant dans quelques écoles d'art, le font, on pourrait dire spontanément, c'est peut-être un mot qui m'échappe malheureusement, mais enfin, ils ont un sens à la fois du mouvement, du volume, du geste de l'animal qui nous stupéfie un peu quand même.
Oui, et ils ne font pas d'essai. La pierre, une fois, ou l'os, en pire encore, une fois qu'il est sculpté, il restera comme ça, ou il se casse. Donc, effectivement, ils veulent exprimer quelque chose, et ils le font, et ils le réalisent, et ils ont un talent, sans aucun doute.
Alors, ce talent, il s'exprime personnellement, et à la fois, on a le sentiment devant chaque pièce qu'il est très collectif.
Oui.
C'est un paradoxe, en somme.
Oui, c'est un paradoxe, mais écoutez, chaque pièce a une influence sur vous en la regardant. C'est comme vous voyez un tableau, vous êtes séduit ou vous êtes sensibilisé par ce que vous voyez.
Donc, on revient à ce magnifique ours à l'entrée. Vous nous le décrivez un peu, Bernard de Watteville, tellement il est frappant.
Je l'ai vu faire.
Ah, alors d'autant plus. Alors,
on n'est pas à la télévision, sinon je vous montrerai le film.
Mais à la radio, les images passent très bien. Vous savez.
C'était très amusant. Il y avait un bloc de granit, et puis il était avec une fraise et des marteaux et des limes, et puis il a créé ce tour, ce que j'ai ensuite acquis.
Alors, vous l'avez acquis parce que vous l'avez vu surgir devant vos yeux. Vous nous le décrivez, c'est une assez grande pièce.
Très
combien
grosse
de
pièce.
Temps a-t-il fallu à l'artiste, quel artiste d'ailleurs, pour le sculpter?
Dans les 2 mois.
Tout de même.
Tout de même, oui, mais il travaille régulièrement. Et dehors, dans le froid, et ils le font.
Et avec quels outils?
Maintenant, il y a beaucoup de fraises électriques. Donc, si vous voulez, c'est limé électriquement. Mais il faut quand même faire l'expression.
Voilà.
Il faut créer.
C'est peut-être ça le plus tout à fait merveilleux, je trouve.
Si vous permettez, j'aimerais juste encore ajouter, il n'y a pas que l'art des sculptures, il y a aussi tout ce qui est les lithos. Et la gravure sur litho, et qui fait des très, très belles, très beaux dessins, très primitifs, si je peux m'exprimer ainsi, mais très beaux, même en couleur. Et vous avez des grands artistes, là, très connus, et ça se commercialise très bien. Et il y a des gens qui font des collections de litho.
Et d'ailleurs, vous les représentez dans le musée. Alors, j'aimerais revenir à votre scénographie. Un musée tout en longueur, une sorte de grande galerie découpée en quelques espaces, Bernard de Batteville, qui permet de thématiser d'espace en espace certaines sculptures, dans un fond complètement foncé, donc des parois noires avec des lumières zénithales très bien placées. Cette scénographie est-elle importante, comme si on entrait dans une sorte de grotte dans l'esprit de la culture inuite?
Tout à fait. Eh bien, je vais vous dire, j'ai la grande chance depuis 10 ans de travailler avec une équipe qui est père et fils, M. Papillou Jean-Claude et son fils, et qui me font depuis 10 ans des expositions superbes avec une scénographie que j'admire personnellement beaucoup, et je profite de leur dire un grand merci pour ce qu'ils font. Et on a commencé au musée du Chien Saint-Bernard à Martigny. Et quand j'ai cédé le musée à la Fondation Barry, nous sommes montés à Crans-Montana et je continue à travailler avec beaucoup de plaisir avec eux. Et on fait, je crois, on réalise quelque chose où on fait sentir le public une atmosphère.
Alors l'atmosphère, elle est aussi animée par des vidéos. Il y a aussi des hologrammes ou en tout cas des silhouettes qui se découpent au sol. On a l'impression d'être emporté dans une aurore boréale avec l'esprit chamanique qui nous enveloppe. Tout ça, c'est assez séduisant, Bernard de Batteville. Pour vous, est-ce que l'aspect ethnographique, il y a aussi un espace sur l'écriture, on va peut-être y revenir un court instant, est-ce que l'approche ethnographique est aussi essentielle dans le musée?
Non, on essaye de le faire aussi, mais je crois que c'est surtout le visuel. C'est surtout la beauté de cet art, de ces pierres, de ces sculptures. Et les films animent, si vous voulez, pour faire un tout. Mais nous avons fait des expositions totalement différentes, rien d'ethnographique. Le verre contemporain, on a fait les masses du Lochental, les masses de l'Himalaya, l'aluminium dans l'art. On a fait énormément de choses très différentes, avec chaque fois une scénographie totalement adapté au sujet.
Qu'est-ce qui dicte vos goûts d'exposition en exposition? C'est un petit peu ce que vous voulez défendre, ce que vous aimez, ou bien vous avez aussi des suggestions qu'on vous fait à la Fondation Bernard et Caroline de Batteville?
Oui, alors bon, le verre contemporain est une collection que j'ai également amassée depuis quelques années, depuis de nombreuses années. Et sinon, ça peut venir, j'ai eu beaucoup de contacts à Paris notamment, avec des gens qui me disent, mais faisons quelque chose sur l'aluminium dans l'art. L'aluminium dans l'art était totalement inconnu. Et pourtant, c'est tout Napoléon III, c'était passionnant. Les masses de l'Himalaya, ça m'a été aussi proposé par un ami à Paris, etc.
Et ce musée? Voyez, je prends des troncs. Ce musée, Bernard de Batteville, n'ouvre que un jour par semaine, le samedi. C'est presque une frustration, je vous cache pas. Si je l'avais raté, je l'aurais pas vu, cette belle exposition. Oui. Expliquez-nous cela.
Non, nous ouvrions 5 jours par semaine. Et Crans-Montana vit pendant vaguement 2 mois en été et 6 semaines en hiver. Et entre deux, les gens qui l'ont vu, l'exposition, vont pas retourner. C'est des gens locaux, ils l'auront vu, je les ai invités, etc.
D'accord.
Donc un jour suffit tout à fait. Et au contraire, c'est justement, les gens sont intrigués d'aller ce jour-là.
D'accord, donc ils prennent le funiculaire, ils montent à la gare et ensuite ils gagnent cran. Cela dit, est-ce que vous avez songé, vous, à un développement des collections, notamment de cet art inuit? Bon, montent à cran, vous l'avez dit, c'est limité par la belle saison d'hiver. Est-ce que vous songez, Bernard de Batteville, à un espace plus permanent qui permettrait un développement de cet art, une explication, des liens avec des ethnographes, des ethnologues?
Oui, on avait doublé la surface pour présenter des expositions et on les a réduits à ce que nous possédons, c'est-à-dire le local. Et je crois que ça suffit pour le moment. J'ai 74 ans, donc je ne vais pas réinventer des tas de choses. Non, je me calme.
Et dans quel animal vous allez vous réincarner, Bernard de Watteville? Dites-moi votre animal totem que je puisse alors à ce moment-là. Est-ce qu'il est déjà un peu dans votre collection, cet animal totem?
Non, mais comme j'ai eu 4 labradors dans ma vie, je crois que ce serait bien d'être 5e.
On pourrait dire ça, d'accord. J'ai pas vu de labrador sculpté dans la réunion, hein, nous sommes d'accord.
Ils font très peu de chiens.
D'accord. Ah, il y a les chiens traîneaux tout de même, quelques-uns. Notamment sculptés sur une mâchoire de baleine. Là, c'est formidable, le petit traîneau avec le conducteur, le musher, comme on dit. Et puis un petit igloo, souvent, d'où part cet attelage. C'est très séduisant, ça, le tout petit format également.
Oui, les miniatures, oui. J'aimerais peut-être, si vous permettez, encore dire une chose sur la société des Inuits. Les Inuits ont vécu, comme vous dites, 4000 ans, sont arrivés maintenant à, je pense, une certaine fin, puisque ça va être le réchauffement climatique.
Voilà, il faut absolument qu'on aborde cette question plutôt tragique, d'ailleurs.
Voilà, tragique, et il faut dire que ces pauvres Inuits ont vécu des moments très difficiles, obligés par l'État canadien, qui ont voulu sédentariser ces gens là-bas pour bien prouver que le Nunavut, cette nouvelle région du Canada depuis 1999 est habitée, ce qui évite qu'il y ait des convoitises autres, parce que vous savez, un territoire non occupé peut intéresser des gens peut-être pas toujours bienveillants.
On voit d'ailleurs des explorations russes pour des nappes pétrolifères dans le Grand Nord. Est-ce que cela menace à la fois la vie de ces sociétés? Est-ce que ça les menace directement ou se sentent-ils, eux, menacés?
Écoutez, il y a toujours du pour et du contre dans toutes ces évolutions. Il y aura beaucoup de choses positives qui vont venir, notamment l'aide, il y aura des explorations, il y a de l'argent qui va venir, il y aura d'autres choses. Ces gens ont tous la télévision maintenant, regardent Miami Beach dans leur cabane.
Mais est-ce vraiment souhaitable, Bernard de Watteville, de leur infliger des séries américaines?
Non.
On est d'accord. Alors que peuvent-ils faire d'autre, hein? On pourrait peut-être se poser cette question, à part cet art magnifique.
Je sais, c'est un gros problème, mais vous pouvez pas non plus obliger des tribus de rester tribus, parce que ça devient alors des réserves d'Indiens, comme on les appelle. Ça serait des réserves d'Inuits, et c'est pas non plus bon. Je crois qu'ils vont, comme nous, être obligés à subir l'évolution du monde et de la société.
Et dans cette perspective, vous aviez l'air de le suggérer, l'art est aussi une forme de résistance, puisque les jeunes artistes reviennent à des formes peut-être plus traditionnelles dans leur création.
C'est très probable, oui. Mais ça sera plus l'art ancestral.
Ouais.
Donc ce sont des deuils à faire, c'est aussi une évolution à accompagner. Et cette exposition, eh bien, elle fait un peu les deux. Elle nous montre à la fois vos choix personnels, 250 pièces dans votre collection, donc celles que l'on peut voir à Grand-Montana pourra faire alterner les figures et le bestiaire, et puis à la fois nous sensibiliser justement à une des cultures humaines qui meurt, ancestrale, non écrite et pourtant magnifique.
C'est juste. Et c'est pour ça que le Nunavut a été créé. Ça, c'était la volonté, après avoir vu la destruction qu'ils ont créée avec ce qu'ils ont fait. Ils ont refait l'Inuktitut et redevenu la langue officielle. Ils ont des écoles là-haut, alors qu'ils ont fait passer ces gens avec le regroupement dans ces communautés. C'était une période épouvantable. Du reste, l'État canadien s'excuse maintenant en disant « nous avons commis un génocide culturel ». On a pris les enfants pour les mettre dans des espèces d'institutions où ils ont été très maltraités et j'en passe. Ils ont tué tous les chiens de traîneau dans leur petit village pour qu'ils ne reviennent surtout pas. Il y a eu des moments tout simplement épouvantables. Si vous avez l'occasion d'aller à Ottawa, la capitale du Canada, il y a un très beau musée qui illustre ça et sans gêne montre toutes les erreurs commises par justement l'État canadien et maintenant les excuses.
Le repentir tardif de l'Occident face aux autres cultures, c'est un vaste débat effectivement. Ouais. Merci beaucoup Bernard de Watteville.
Merci monsieur.
De nous avoir entraînés si loin.
Merci à vous. Grand Nord, Art Inuit, c'est donc cette exposition à découvrir au musée Art et Collection, la Fondation Bernard et Caroline de Watteville, à Crans-Montana, ouvert les samedis de 10h30 à 13h et de 14h à 18h30. Merci beaucoup. Belle journée à vous.
Merci beaucoup monsieur. Et ça m'a fait très plaisir de pouvoir m'exprimer.
Et nous aussi. Merci Christian.
Merci à vous Nicolas. À bientôt, et à bientôt pour de nouvelles aventures culturelles.
Avec plaisir.